Donc, bonjour à chacune et à chacun. Je m'apprête donc à vous donner quelques éléments sur un livre dont on ne parle pas très souvent, qui est le livre d'Esther. Et j'ai intitulé mon message de façon un peu cryptique « De Cendrillon à MeToo ». Pourquoi cela? C'est que peut-être avez-vous quelques souvenirs d'école du dimanche où on lit le livre d'Esther et on le lit un peu comme un conte de fées, n'est-ce pas? C'est cette jeune fille orpheline qui finalement épouse le plus grand roi du moment, voilà. Mais je suis absolument désolé, mais je vais faire voler en éclats ce beau conte de fées pendant cette présentation. Alors tout d'abord, un petit rappel de l'histoire et quelques éléments de chronologie. Nous sommes dans le livre d'Esther, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, et donc il se déroule dans un laps de temps assez court entre l'année -483 et l'année -473, pendant le règne du roi de Perse, Assuérus. Donc nous sommes pendant la période de la domination perse, et nous sommes entre deux sections d'autres livres, Esdras et Néhémie, qui se déroulent à peu près à la même période. Mais comme on ne le perçoit pas toujours, le livre d'Esdras, en fait, se déroule en deux parties. La première, c'est lorsque le roi Cyrus conquiert l'Empire babylonien en -539 et qu'il donne l'ordre en -538 aux Juifs de remonter de captivité. Et ça se déroule sous Zorobabel. Et donc, les six premiers chapitres d'Esdras concerne cette première période entre 538 et 516. Ensuite, nous avons un long laps de temps de 58 ans, et puis nous avons la deuxième partie du livre d'Esdras, sur laquelle enchaîne rapidement le livre de Néhémie, et au milieu de ces deux livres, il faut se rappeler que dans le canon juif, Esdras-Néhémie ne forment qu'un seul et même livre, eh bien, nous avons ce livre d'Esther, et je vous inviterai très souvent dans la suite de mon exposé à regarder des éléments en contraste entre ce que nous trouvons dans le livre d'Esther et ce que nous trouvons dans les livres d'Esdras et Néhémie. Mais n'anticipons pas. Un élément sur l'Empire perse était absolument gigantesque puisqu'il allait du fleuve Indus, donc dans l'Inde actuelle, il aurait bien aimé jusqu'en Grèce, mais pas tout à fait, puisqu'il s'est arrêté sur la frontière est de la mer Égée, et puis il allait jusqu'en Égypte, etc. Les rois de Perse avaient leur capitale à Suse, et c'est bien là que va se passer l'essentiel de l'histoire d'Esther. Suse, donc, qui n'est pas très très loin de Babylone, les rois perses avaient deux capitales, Suse et Persépolis, l'une pour l'hiver, l'autre pour l'été. Et donc c'est au sein de cet immense empire composé de 127 provinces, comme nous le trouvons dans ce livre d'Esther, que se déroule l'intrigue de notre livre. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails de l'histoire, mais il y aurait trois éléments sur lesquels il faudrait insister et développer pour peut-être comprendre plus, de façon plus pertinente l'histoire d'Esther. C'est d'abord la situation historique, puisque nous nous trouvons dans ce livre d'Esther dans l'an 483, c'est-à-dire peu de temps avant que Assuérus lance la deuxième campagne de la Perse contre la Grèce, campagne qui va échouer puisque lors de cette deuxième guerre médique, les Perses vont bien remporter une victoire contre Léonidas aux Thermopyles, vous savez, ce célèbre épisode qu'on apprend dans les cours d'histoire, mais ils vont être défaits en tout cas lors de la bataille naval de Salamine et puis aussi à Platée. Et donc les Grecs, pourtant fort peu nombreux en comparaison avec les Perses, vont remporter cette victoire et désormais l'Empire perse va renoncer à s'attaquer à la Grèce. Et donc le livre d'Esther commence 3 ans avant que le roi lance cette grande offensive. En fait, il a fallu une année, mais enfin, et le grand festin qui commence le livre d'Esther est justement là pour galvaniser les troupes des 127 provinces et rassembler tout le monde pour aller lutter contre les Grecs. Donc on voit qu'on est très proche de points historiques bien connus. Le second point important historique, c'est la loi des Perses et des Mèdes, qui est impossible à abroger. Ça, le livre de Daniel en avait déjà parlé, mais nous le retrouvons aussi au cours de ce livre d'Esther, parce qu'une fois promulgué, aucune loi ne peut être annulée, même par le roi lui-même. Et le troisième point qui aussi est caractéristique de l'époque et interfère largement avec l'histoire d'Esther, c'est le harem royal, puisque d'après tout ce que nous savons de l'époque, eh bien, il était très important pour un roi d'avoir un harem très important avec les plus belles filles du royaume. C'était un moyen de démontrer sa puissance. Alors, comme dans toute bonne histoire, quels sont les principaux protagonistes? Eh bien, nous en avons quatre. Nous avons Esther, tout d'abord. Alors, Esther, son nom est en fait double nom, parce qu'elle avait un nom juif qui était Hadassa, qui signifiait myrte. Mais Esther, c'est un Ishtar, hein, c'est le nom de la déesse principale des Babyloniens et des Perses. Elle était orpheline de père et de mère, et le texte insiste sur sa beauté, à la fois de taille et de figure, et nous voyons tout au cours du récit à la fois son entregent et son habileté. Le deuxième personnage, c'est Mardoché, donc il est à la fois le cousin germain et le père adoptif d'Esther. Il est descendant de Kis, c'est un benjaminite, donc c'est de la même famille que le roi Saül, puisque Saül était fils de Kis, et il jouait un rôle important à la cour, et c'est un homme dont le patriotisme est exacerbé. Troisième personnage, c'est le grand roi de Perse lui-même, Assuérus, qu'on appelle aussi Xerxès ou Xariasan, voilà. Hérodote, l'historien grec, nous dit que c'était quelqu'un qui avait une sensualité exacerbée, qui était aussi un despote avec des caprices, et qui était pourtant loyal pour récompenser ceux qui l'avaient bien servi. Et le dernier, c'est Aman, qui lui était un descendant d'Agag. Agag était de la lignée des Amalékites, qui s'était opposé au peuple d'Israël dès leur départ d'Égypte, et que nous retrouvons aussi sous l'histoire de Saül, qui en fait avait tué les Amalékites, sauf Agag, le roi, et un de ses descendants se retrouve à la cour du roi de Perse. Il s'appelle Aman, il a un caractère orgueilleux, et son nom est dérivé aussi d'une divinité humaine. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas lu mon WhatsApp ou qui n'auraient pas eu le temps de relire les 10 chapitres du livre d'Esther, je vous propose de balayer très rapidement l'histoire, comme cela, ça nous la remettra un petit peu en tête, et de le faire aussi au travers d'une iconographie, parce que l'histoire d'Esther a beaucoup inspiré les artistes. Elle a inspiré le grand Jean Racine, puisqu'il a repris la plume pour les jeunes filles de Saint-Cyr dans cette magnifique pièce d'Esther. Il a inspiré des oratorios comme celui d'Handel, et surtout il a inspiré beaucoup de peintres, et donc il y aura quelques, ou de graveurs, et donc il y aura quelques images. Alors là, le récit s'ouvre en fait sur un festin que Assuérus donne à tous ses grands, justement pour les motiver à venir avec lui lutter contre les Grecs. Et catastrophe, la reine Vashti ne veut pas venir auprès du roi, son mari. Elle ne veut pas se montrer, elle préfère rester chez elle. Et c'est là où on retrouve MeToo. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passait ? C'est que le roi lui demandait de venir, alors qu'il était saoul comme une barrique ainsi que ses copains, et lui demandait de venir vêtu seulement de sa couronne. Voilà. Donc vous imaginez ce que ça devait être. Et Vashti, qu'on présente parfois sous un jour un peu négatif, mais je trouve que c'est quand même pas si mal, eh bien, elle a le cran face à celui qui a été le souverain omnipotent, comme on peut difficilement l'imaginer aujourd'hui, de dire non et de refuser de paraître. Bah, ça lui coûte sa place. Et donc, le roi se met en chasse d'une remplaçante. Et donc, il fait valoir à son intendant tout ce qu'il faut. Et Esther candidate. Et elle se fait apprêter, il y a tout un cérémonial pendant des 12 mois pour qu'elle puisse paraître au mieux de sa forme devant le roi. Le roi la prend à l'essai, si je puis dire, pendant une nuit. Ça a l'air de bien se passer puisque il décide d'en faire sa reine. Et donc, il la couronne. Oh, tout va très bien. Et le récit continue. Mais il y a une petite incidence qui se passe, c'est que Mardochée, qui avait un rôle important puisqu'il était à la porte du roi, alors c'est pas qu'il était à la porte juste en tant que portier pour ouvrir et fermer. Quand on était à la porte du roi à l'époque, c'est qu'on avait une place de jugement, on était un fonctionnaire important. Et il entend deux autres gaillards qui complotent pour tuer Assuérus. Et il fait son rapport, on découvre que le complot, effectivement, avait bien été fomenté, et on arrête les deux gars, puis vous imaginez ce qui se passe. Alors, toujours à la cour de notre roi Assuérus, il y avait un autre personnage, Aman, et le roi se prend d'affection pour lui et l'élève très haut. Et Aman reçoit une position d'honneur telle que le roi ordonne à tous ses sujets de s'incliner quand Aman passe. Mais Mardochée, lui, refuse de s'incliner. Et ce qui met Aman en fureur. Et de ce fait, Aman se dit, je vais tuer Mardochée, puis pas simplement Mardochée, mais aussi tous les Juifs, parce que à ce moment-là, Mardochée avait déclaré qu'il était juif. Catastrophe, que va-t-il se passer? Prévient Esther pour lui dire, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu ailles vers le roi pour lui demander la grâce pour les Juifs. Et Esther dit, ça va être très difficile parce que moi, je ne peux pas venir de mon propre chef auprès du roi, il faut que j'y sois appelée. Donc finalement, elle se présente, le roi lui donne son sceptre, tout se passe bien. Elle dit, je t'invite avec Aman à un festin. Donc premier festin d'Esther avec Aman et Assuérus. Aman est tout fier en disant, oh là là, dis donc, je suis invité à un festin privé, c'est génial. Et Esther prudemment dit, on va refaire un deuxième festin un petit peu plus tard. Et il se trouve que la nuit qui sépare les deux festins, Assuérus a une insomnie et pour meubler son insomnie, il dit « apportez-moi mes annales », c'est-à-dire ce qui racontait tout ce qui s'était passé. Et on lit les annales et on lit la fameuse histoire de Mardochée qui avait trouvé les deux bonhommes qui voulaient comploter contre lui. Il dit « mais au fait, est-ce qu'on a fait quelque chose pour Mardochée ?»« Ah non, on n'a rien fait pour lui. Qu'à cela ne tienne !» Et il donne l'ordre le lendemain matin à Aman qui vient tout heureux dans le palais parce qu'il attend le second festin, lui dit si quelqu'un avait dénoncé un complot contre moi, qu'est-ce qu'il faudrait lui faire? Oh, Aman se dit si le roi veut honorer quelqu'un, je vais en rajouter. Donc il en rajoute un maximum et le roi lui dit tiens, va faire ça à Mardochée. Donc Aman est fou de rage puisque il doit promener Mardochée qui était son ennemi dans les rues alors que lui pensait être à la place. Bon, et après ce petit tour, il rentre chez lui, il est furieux, mais il va quand même au deuxième festin d'Esther, et là, Esther dévoile les plans de ce méchant Aman, et Assuérus est furieux, du coup, il sort il sort sur la terrasse, et entre-temps, Aman se précipite aux pieds d'Esther. En rentrant, Assuérus croit que Aman est en train de violer Esther, ou je sais pas quoi, et donc il dit à ses serviteurs, voilez-lui la tête, c'est ce que représente ce tableau, vous voyez, avec ce grand linge, ça voulait dire, emmenez-le pour l'exécuter. Et Aman, finalement, est pendu au gibet qu'il destinait à Mardochée. Après quoi, le roi Assuérus accorde à Esther et à Mardochée plein d'honneur, sauf qu'il y avait toujours cet édit que Aman avait fait signer au roi de tuer les Juifs. Et cet édit ne pouvait pas être annulé, la loi des Perses et des Mèdes. Et donc, il y a un contre-édit que Mardochée demande au roi de signer, qui est envoyé dans les 127 provinces comme d'habitude, pour dire, finalement, les Juifs auront le droit de se défendre. Et non seulement les Juifs ont le droit de se défendre, mais les Juifs en rajoutent, puisque rien qu'à Suse, il y a 500 morts, et comme ça suffit pas trop à Esther, le lendemain, elle va retourner voir le roi pour lui dire « j'aimerais un deuxième jour de massacre, s'il te plaît », et il y en a 300 de plus le lendemain, donc vous la voyez là-haut, qui est en train de regarder tranquillement les ennemis des Juifs se faire massacrer. Et ça donne lieu à une fête qu'on appelle la fête de Pourim, et qui est la fête où les Juifs, encore de nos jours, font vraiment la fête. C'est-à-dire qu'on boit, on mange, on fait vraiment la fête. Voilà donc l'histoire de Esther un petit peu raccourcie, je vous le concède, comme on peut la lire dans la Bible. Et, parce que sinon vous seriez frustrés, cette histoire est magnifique parce qu'elle forme un chiasme absolument parfait. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais au centre, vous avez cette fameuse insomnie d'Assuérus et l'élévation de Mardochée. Puis on voit, il y a un festin au début, il y a un festin à la fin, il y a les deux festins d'Esther au milieu, il y a le début du complot, la fin du complot. Enfin, ça marche de façon extraordinaire. Mais c'est pas mon but ici. Mon but, c'est plutôt de vous dire comment faut-il lire Esther. Eh bien, d'habitude, on lit Esther avec des lunettes roses. Ben oui, c'est si mignon, cette jeune orpheline qui est élevée, et puis ce complot qui est déjoué, et puis les méchants qui meurent, surtout Aman, enfin, il a tout pour lui comme méchant XXL à la Walt Disney, vous êtes d'accord avec moi? Et puis Mardoché, Esther, tout, avec qui tout arrive bien. Voilà. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est peut-être de quitter nos lunettes roses et notre petit cœur de midinette et de lectrice de la collection Harlequin et de passer aux lunettes de vue. Voilà. Et je vous propose donc 10 points successifs qui permettront de voir ce récit d'Esther en contraste avec les deux livres d'Esdras et Néhémie qui encadrent justement ce récit d'Esther. Je vous rappelle, ces trois livres se situent au même moment, mais ils concernent deux populations différentes. Ils concernent d'un côté, pour Esdras et Néhémie, ceux qui sont remontés, et pour Esther, ceux qui sont restés à Suse. Alors tout d'abord, Dieu. Je pense que je n'apprendrai pas grand-chose à un grand nombre d'entre vous en disant que le nom de Dieu n'apparaît pas dans le livre d'Esther. Pas du tout. D'accord ? Il n'y a pas le nom de Dieu. Voilà. Il n'y a pas le nom de Dieu. Et ça, c'est quand même un peu gênant quand même dans un livre qu'on veut mettre dans la Bible, qui n'est pas le nom de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les rabbins juifs étaient quand même un peu embêtés avec ce livre d'Esther, où il n'y avait pas le nom de Dieu. Et donc, les rabbins juifs d'Alexandrie, quand ils ont traduit toute la Bible, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament en grec, ils ont rajouté, pour le livre d'Esther, parce que le traduire comme ça, c'était quand même un peu gênant, ils ont rajouté des morceaux avec des prières, avec etc. Et donc, vous avez deux textes. Vous avez le Esther canonique que nous retenons dans nos Bibles protestantes et qui est le même que celui dans les Bibles juives, je rappelle. Hein. Et puis, celui de la Septante, donc la traduction en grec de l'Ancien Testament, qui a augmenté de à peu près 70%. Donc, ils ont presque doublé la taille du livre. Et puis, ils ont rajouté, comme vous le voyez ici, des chapitres, des chapitres, des chapitres, avec en faisant des tonnes sur le religieusement correct. C'est-à-dire que là, on rajoute les prières d'Esther, les prières de Mardoché, et puis Dieu, et Dieu, et Dieu, etc. Parce que c'était quand même un peu gênant dans ce livre où il n'y avait pas le nom de Dieu. Et c'est d'autant plus gênant que, quand on regarde ici, vous avez la fréquence du nom de Dieu dans tous les livres de l'Ancien Testament, eh bien, dans les livres historiques, les livres où le nom de Dieu est le plus fréquent, c'est Esdras et Néhémie. 1,2% du nombre de mots, et Esther, bien sûr, zéro. Alors, pourquoi y a-t-il un peu ce record de la fréquence du mot Dieu dans les livres de l'Ancien Testament, dans Esdras et Néhémie? C'est parce que, en fait, lors du retour de la captivité, le peuple qui est remonté a été purgé de son idolâtrie. Et c'est bien ce que le chapitre 40 et 48 d'Ésaïe annonçait à l'avance. Mais c'est pas vrai de tous, parce que ce que ce livre d'Esther met en exergue, à mon avis, c'est que si ceux qui sont remontés de captivité, Esdras et Néhémie, eux, étaient bien d'accord, il y avait bien eu ce retour vers le vrai Dieu, eh bien, en revanche, pour ceux qui étaient restés en Babylonie ou qui étaient en Perse, eh bien, ils avaient oublié Dieu pour une approche qui était beaucoup plus culturelle et raciale, finalement, que pieuse. Et donc, on voit ce contraste entre, d'un côté, Esdras, Néhémie et Esther. Deuxième point, le retour de captivité. Quand Cyrus a lancé son édit, en fait, il ne faisait que faire écho à ce qui avait été annoncé à peu près 150 ans auparavant par le prophète Ésaïe, quand à la fin de cette section justement qui présente la grandeur de Dieu, chapitre 40 à 48 d'Ésaïe, eh bien il conclut cette longue portion « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix de chant de joie, déclarez et faites entendre ceci, portez-le jusqu'au bout de la terre, dites l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. » Et à peu près 100 pas tout à fait 100 ans, mais peut-être 60 ans avant l'édit de Cyrus, eh bien, le prophète Jérémie, qui était resté à Babylone, à Jérusalem, avait envoyé une lettre à ceux de Babylone en leur disant « Cherchez le bien de la ville dans laquelle vous êtes établis, etc. » Alors ça, c'était pas rentré dans des oreilles de sourds. Chercher le bien, ils avaient bien cherché le bien et aussi leur bien. Et donc, ils s'étaient bien établis en Babylonie, etc. Sauf que, quelques versets après, notre prophète Jérémie disait « Et lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai, etc. Et vous m'invoquerez et vous me supplierez, vous me chercherez de tout votre cœur, je rétablirai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous aurai chassé, et je vous ferai retourner au lieu d'où je vous ai transporté. » Donc la pensée de Dieu était bien, d'abord et avant tout, de faire remonter les Juifs de Babylone. Et c'est l'ordre que Cyrus donnait. Ainsi dit Cyrus, le roi de Perse, « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, et de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui et Dieu, à Jérusalem. » Incroyable décret que de ce roi païen qui donne l'ordre finalement à tous les sujets juifs qui sont répartis dans son empire de remonter pour rebâtir la maison à Jérusalem. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet ordre a bien été entendu, puisque chaque fois vous avez le fond jaune hein, pour Esdras Néhémie, le fond gris pour Esther. C'est les bonnes lunettes. Il y a bien eu trois retours successifs, 42 000 et quelques personnes sous Zorobabel, quelques milliers avec Esdras à peu près 60 ans après, et puis quelques personnes unités sous Néhémie. Mais en fait, il y a eu plein de désobéissants à l'ordre de Cyrus. Et pire, plein de désobéissants à l'ordre de Ésaïe et de Jérémie. Et plein de gens qui étaient finalement tellement bien installés, qui avaient tellement bien chercher le bien de la ville dans laquelle ils étaient, que finalement ils avaient acquis des positions assez influentes et que, ben, ma foi, on n'était pas si mal. Donc pourquoi on serait remonté à Jérusalem, puis là, franchement, à Babylone, à Suse, à Persépolis, c'est là que ça se passait à l'époque, hein. C'était les capitales du monde. Remonter dans une ville en ruine avec des péquenauds, désolé, c'était pas très sexy, donc on préférait rester tranquillement. Voilà. Et donc finalement, la situation de Mardochée et de Suse, eh bien, et que le texte est très très précis. Hein, et il y avait à Suse un homme juif et son nom était Mardochée. Il avait été transporté de Jérusalem avec les captifs. Vu son âge et vu la chronologie, c'est pas lui, ce sont ses parents. Mais on voit que finalement, c'est lui. Il aurait dû être dans cette idée de j'ai été captif, même si c'est pas moi. C'est mon grand-père, peut-être, le grand-père de Mardochée ou son arrière-grand-père qui avait été déporté. Eh bien, je fais partie de ces captifs. Je me considère comme captif, mais en fait, pas du tout. Il était à la porte du roi. Donc, tout allait bien. Donc, Esther, pour moi, c'est un tableau des désobéissants parmi les Juifs, en contraste avec Esdras et Néhémie, qui est un tableau des obéissants parmi les Juifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire d'Esther? C'est l'histoire du mariage d'Esther avec Assuérus, et puis de ce qui suit. Mariage d'Esther avec Assuérus, c'est quand même un peu un problème, ça, parce que on voit que Esther est encouragée par Mardochée à concourir dans le concours de beauté de Miss Suse, et on voit qu'elle elle fait tout, hein, c'est-à-dire que en plus... Elle se met à la bonne avec celui qui est chargé de préparer les princesses et il lui donne de bons conseils, elle suit, bons conseils, je vous laisse imaginer, et finalement, on voit que Mardochée fait tout aussi pour asseoir la place d'Esther. Et donc, on voit que les deux, ils sont tout à fait d'accord pour qu'il y ait une juive qui épouse un païen. Et c'est ce que j'appelle de la fornication institutionnelle, parce que la loi de Moïse était vraiment contre ces mariages-là. Et justement, il était dit, tu n'épouseras pas un étranger parce que de peur que tu adoptes ces coutumes. Et je rappelle, Mardochée, c'est Marduk, il portait le nom du principal dieu de Mésopotamie, et Esther Ishtar, la principale déesse. Donc, il s'est quand même très assimilé, hein, les deux. Hein. Tandis que la situation sous Esdras et Néhémie, elle est très différente parce qu'il y a des mariages mixtes qui se sont multipliés du temps d'Esdras. Je rappelle, Esdras, c'est à peu près une trentaine d'années après l'histoire d'Esther. Ben bien sûr, l'exemple vient d'en haut. Si vous avez une juive qui épouse le grand chef, ben nous, on va faire pareil, les amis. Et d'où les tous les mariages mixtes qui désolent notre pauvre Esdras. Alors, chacun réagit avec son caractère, c'est-à-dire qu'Esdras, il est désolé, et Néhémie, il se fâche. Voilà. Mais il n'empêche que dans un cas comme dans l'autre, les mariages mixtes sont très fermement condamnés. Esdras, chapitre 10, et Néhémie, chapitre 13, c'est la conclusion de ces deux livres, qui est centrée sur la dénonciation de ces mariages mixtes. C'est quand même pas pour rien que ces deux livres, tels qu'ils ont été divisés hein, dans le canon grec, se terminent sur ce plan-là. Un autre point, la fidélité dans le mariage. Alors, il faut pas extrapoler. Le livre d'Esther, c'est pas une leçon ou une contre-leçon sur la vie maritale, hein, parce que c'était tellement différent quand on était la femme d'Assuérus que dans nos couples actuels que les leçons directes pour votre séminaire de famille Je t'aime, je vous invite à ne pas les tirer de ce livre d'Esther d'une manière ou d'une autre, que ce soit en positif ou en creux. Mais bon, ce qu'on voit quand même, c'est que Esther, elle est poussée par Mardoché à dissimuler quelque chose quand même d'assez fondamental, c'est son origine vis-à-vis d'Assuérus. C'est pas très franc du collier quand même cette histoire, vous êtes d'accord avec moi. On voit aussi que finalement, quand elle cherche un conseil, il y a Mardoché qui est là et elle lui est très très soumise, hein, plus qu'à son époux, alors que l'indépendance de Vashti était la cause de sa chute. Et puis, on voit que Malachi, à la fin de la révélation, lui, ce prophète qui était du côté plutôt d'Esdras et Néhémie, eh bien, il dénonce ces mariages, et en particulier cette non-fidélité à l'alliance du mariage, au chapitre 2 du livre de Malachi. Je ne vais pas développer ce point-là. Cinquième point, c'est la relation à l'autorité. Alors là aussi, Mardoché, ben, c'était quand même un fieffé orgueilleux, parce que c'est le roi qui avait commandé de se prosterner devant Aman. C'est pas Aman qui, de lui-même, avait dit, je veux que tout le monde se prosterne. C'est un écrit royal. C'est un ordre royal. Et il refuse d'obéir au roi. Ah bon? Bah oui, parce que moi, je le vaux bien. Et c'est à cause de cela que tout le peuple juif est mis en danger. Et le texte le pointe bien, puisque regardez comment le texte appelle, ils appellent pas le peuple d'Israël. Ils appellent pas le peuple de l'Éternel. Il appelle le peuple de Mardoché deux fois. On lui avait appris qu'elle était le peuple de Mardoché et Aman cherchait à détruire tous les Juifs qui étaient dans le royaume d'Assuérus. Le peuple de Mardoché. Par son fieffé orgueil, eh bien, il met en danger tous ses compatriotes. C'est quand même pas terrible, cette histoire. Alors qu'en face, on est frappé par l'attitude respectueuse d'Esdras et de Néhémie. On voit qu'ils font des lettres aux autorités pour recevoir les autorisations nécessaires. On voit que Esdras remercie et bénit l'Éternel pour le roi et les conseillers. On voit Néhémie aussi, qui était à un poste très très élevé à Suse, quand il est réveillé pour remonter à Jérusalem, etc. Et il est aussi très respectueux vis-à-vis du roi, relisez le début de Néhémie, et sans parler des attitudes de Daniel aussi, tout au long de son livre, que l'on voit extrêmement respectueux vers les autorités que Dieu lui-même avait établies, puisque Dieu avait permis que, dans sa souveraineté, le peuple d'Israël soit mis de côté, que les rois d'Israël puis de Juda, ben ça nous le voyons dans notre étude suivie, soient mis de côté, et que finalement, eh bien, l'autorité soit confiée, l'autorité terrestre, soit confiée au roi de Babylone, puis au roi de Perse. Et donc, il était, selon Dieu, de leur être soumis, ce que Mardoché ne fait pas, et d'ailleurs au grand risque pour tout son peuple. Alors, il y a quand même, vous me direz quand même, il y a quand même des points positifs, c'est-à-dire que quand il y a ce décret contre tous les Juifs, qu'est-ce que va faire Esther? Elle va jeûner, et puis tous les Juifs, ils vont jeûner. Ah oui, ils vont jeûner. Oui, oui, ils vont jeûner, effectivement, avant le massacre. Tous les Juifs, hein, avec le sac et la cendre, puis Mardoché, de façon assez ostensible, hein, il suppose tout ce qui s'était fait. Mardoché envoie déchirer ses vêtements, se couvre d'un sac, il sort au milieu de la ville, il pousse un cri grand et amer, etc. Et ensuite, il est dit, Mardoché informe à Esther de tout ce qui lui était arrivé. Donc, il faut vraiment qu'il démontre très fort que ça allait pas. Et ce jeûne est réclamé par Esther, mais ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a aucune mention de la prière. Donc, il y a bien le jeûne, l'assiette est vide, mais les mains ne sont pas jointes. Pas de mention de la prière. Or, dans la parole de Dieu, nous voyons de façon presque unanime que le jeûne va avec la prière. Alors, je ne vais pas faire un long discours sur le jeûne, mais il faut voir qu'il y a quand même une pratique pieuse du jeûne, puisque Esdras, donc quelques années après, juste avant de remonter avec ses quelques milliers d'amis de Babylonie jusqu'en Jérusalem, eh bien, près du fleuve Ahava, publie un jeûne pour nous humilier devant notre Dieu, pour lui demander le vrai chemin pour nous et nos enfants et pour nous tout notre avoir. Est-ce que nous voyons Esther et Mardoché demander quoi que ce soit à Dieu? Pas du tout. Et leur jeûne, finalement, il correspond à cette dénonciation du jeûne que Zacharie, quelques années avant, avait faite. Parce que, apparemment, en Babylone, s'était développée cette pratique du jeûne, le quatrième, le cinquième, le septième, le dixième mois. Et il y a quelqu'un qui vient de Babylone pour rencontrer le prophète Zacharie en disant, est-ce qu'il faut encore qu'on jeûne, puisque maintenant, il y en a quand même qui sont remontés. Et Zacharie, il dit, c'est pas le sujet, les amis. Le sujet, c'est pourquoi vous jeûnez? Est-ce que vous jeûnez juste parce que ça fait bien, ça fait pieux? Ou est-ce que c'est pour moi? Est-ce réellement pour moi que vous avez jeûné? Voilà. Et j'insiste fermement sur le danger du jeûne, qui peut être aussi un moyen de se faire valoir ou de dire, ben, Dieu, tu dois me répondre à ma prière, si on m'accompagne par la prière, parce que j'ai jeûné. Je suis quand même privé de manger pendant quelques temps. Donc, tu me dois bien une réciproque. Il y a toujours ce danger-là qui, je pense, est présent. Et il faut remarquer que, finalement, le passage de Zacharie 8 se termine de façon magnifique avec en disant, ben, je vais remplacer ce jeûne par des fêtes. C'est quand même intéressant. On est plus invité à la fête qu'au jeûne. C'est quand même intéressant, ça. Et quels seront les résultats de cette fête? Eh bien, il y a beaucoup d'habitants des peuples et de beaucoup de villes qui diront « Allons implorer l'Éternel, et moi aussi je vais monter. » Beaucoup de peuples et de nations puissantes iront pour rechercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Donc, on voit que finalement, ces fêtes positivement posées à Jérusalem seront l'occasion d'ameuter des gens à Jérusalem, d'attirer des non-juifs vers le vrai Dieu. Tandis que là, il y a des gens qui se font juifs, mais c'est pas parce qu'ils sont attirés par les fêtes positives du vrai Dieu, c'est parce qu'ils ont la trouille de Mardoché, parce qu'il est devenu numéro 2 et qu'il vaut mieux, peut-être si on se met de son côté, ça ira mieux, peut-être mieux pour nous. La frayeur de Mardoché est tombée sur eux, pas du tout la frayeur de l'Éternel. Septième point, l'orgueil. Alors j'ai déjà parlé de la parade de Mardoché qui accepte sans broncher ce qu'il refusait de donner à Aman, et la grandeur de Mardoché qui est écrite dans des annales païennes. Alors ça aussi, c'est en contraste avec d'autres mentions qu'on a, la déclaration de la grandeur de Mardoché, comment le roi l'éleva, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Alors c'est une expression qui est très parallèle avec celle que nous trouvons constamment dans le livre des rois. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois du Juda? Sauf que là, c'est pas le roi du Juda, c'est les rois des Mèdes et des Perses. Voilà, donc il fut grand, agréable, donc il a parlé pour la paix, c'est bien, mais c'est lui qui est mis en avant, pas du tout l'action de Dieu. Alors, qu'en contraste, les Juifs remontés de captivité, eh bien, se caractérisent par leur humilité. Et on a ces grandes prières d'humiliation, Esdras 9, Néhémie 9, sans oublier Daniel 9, quelques années auparavant. Puis leur attitude générale face aux autorités. Et ils reconnaissent aussi leur position devant Dieu. Nous sommes peu de choses, etc. On voit leur attitude vraiment humble. Ils disent, oui, c'est pas le temps du temple de Salomon. C'est les petits commencements, mais on fait ce qu'on peut avec nos forces, etc. Huitième point, c'est la vengeance. Cette vengeance instigée par Mardoché qui va, me semble-t-il, bien au-delà de la légitime défense en parallèle avec celle de Aman. Donc, on voit ici que au chapitre 3, Aman, qu'est-ce qu'il voulait faire dans le premier édit, celui qui a donné l'ordre de tuer les Juifs? Tuer, détruire, faire périr tous les Juifs depuis le jeune garçon jusqu'au vieillard, les enfants et les femmes. Et qu'est-ce que finalement Mardoché va faire dans le contre-édit qui permet aux Juifs de se défendre? Non seulement il va défendre il va permettre aux Juifs de se défendre, mais de détruire, tuer et faire périr les femmes et les enfants et mettre au pillage, etc. Exactement la même chose. Donc, il fait finalement symétrique ce que Aman voulait faire. Œil pour œil, dent pour dent. On n'est pas du tout dans l'optique dans laquelle nous sommes dans d'autres textes, comme par exemple sous Esdras et Néhémie, où nous voyons que finalement, le peuple, que ce soit sous Zorobabel ou sous Esdras et Néhémie, il ne réagit que quand il est attaqué. par Sambalat, le Horonite, et puis les affreux là qui étaient de l'autre côté du fleuve. Mais c'est pas finalement le but, c'est pas de les attaquer en tant que tels. Le but, c'est juste de se défendre et de la manière la moins militaire possible, puisqu'on voit qu'ils ont même une épée parfois et puis une truelle de l'autre main. Donc ils sont pas là pour tuer tous ceux qui sont autour d'eux. Donc cet esprit de vengeance que nous trouvons chez Mardochée n'est pas présent dans Esdras et Néhémie. Et enfin, il y a la fête. Alors, ce livre d'Esdras est célèbre parce que c'est lui qui a établi la fête de Pourim, cette fête qui célèbre depuis maintenant, 2500 ans ou presque, cette délivrance miraculeuse que les Juifs ont connue du temps d'Esther. Et donc, ce livre est là aussi pour expliquer pourquoi la fête parfois dure un jour, parfois dure deux jours, etc. Mais enfin, ce qui frappe aussi, c'est que cette fête est à relents païens. Il n'y a aucun sacrifice, aucune lecture de la loi, rien du tout de tout cela. Et le parallélisme entre le festin du chapitre 9 et le festin que Assuérus fait quand il a choisi Esther est absolument frappant. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans les deux cas, on s'échange des cadeaux, dans les deux cas, la nourriture et le vin coulent à flot. Tandis que les fêtes dans Esdras et Néhémie, ah ben oui, il y en a. Il y en a de nombreuses. Et là aussi, il est question de joie, puisque Pourim, les Juifs firent du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie. Ben oui, la joie aussi est présente dans le petit reste qui est remonté à Jérusalem sous Esdras et Néhémie. Il y a la fête des tabernacles sous Zorobabel, la Pâque et la fête des pains sans levain sous Zorobabel aussi, la fête des tabernacles sous Néhémie, etc. Et elles sont attractives pour les autres peuples. Et puisqu'on voit qu'ils en mangent et ils partagent avec tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations du pays pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc on voit cet esprit de partage qui est très différent, je trouve, de ces cadeaux entre nous, entre soi, de la fête de Pourim. Donc voilà 9 éléments. Bon, la force de l'accumulation, j'espère, essaiera de vous convaincre quelque peu. Mais si ce qu'on peut aussi regarder, c'est qu'il y a des éléments centraux dans le livre d'Esdras et Néhémie qui sont totalement absents du livre d'Esther. Alors je sais que faire parler le silence des textes est toujours un exercice délicat, mais néanmoins, en l'espèce, on pourrait s'attendre quand même à retrouver dans Esther des thèmes qui parcourent l'Ancien Testament presque du début à la fin et surtout qui sont très prégnants dans ces deux livres qui sont contemporains du livre d'Esther. Je prends le temple, aucune mention du temple, que ce soit l'ancien, que ce soit le nouveau. Les sacrifices, pas un mot dans tout le livre d'Esther. La loi de Moïse, oubliée. Les fêtes à l'Éternel, la Pâque, les tabernacles, c'est quoi ce truc-là? Jérusalem et ses murailles, c'est vraiment bien loin et puis c'est pas nos préoccupations. Et quant aux prophètes, est-ce qu'ils ont parlé un jour? On ne sait plus. Donc pour moi, Esther, c'est la face sombre d'Esdras et Néhémie. Vous l'aurez compris. Dark side of the moon. Et donc, quelle conclusion pourrions-nous tirer de ce livre? Parce que s'il est dans la parole de Dieu, même si, titre personnel, je mets bien au 66e rang, eh bien, néanmoins, il est là. Ben oui, Luther, je vous rappelle, voulait même l'exclure de sa Bible. Mais bon, il est quand même là, donc il faut qu'on en fasse quelque chose. Et effectivement, on peut en faire quelque chose. Déjà, ne serait-ce que par contraste. Hein. Et puis quand même, on peut voir que le Dieu de Providence est derrière la scène. Et c'est quand même assez frappant de voir ces coïncidences dans l'intrigue. C'est presque trop fort, quoi. C'est pour ça que je vous ai mis ce proverbe, on jette le sort dans le giron, mais toute décision est de par l'Éternel. Que ce soit pile la nuit entre les deux festins d'Esther que le bon Assuérus, si je saurais l'appeler ainsi, a une insomnie et qu'on lui donne le bon livre des annales à la bonne page et qu'il s'aperçoive, ah ben oui, tiens, on a oublié Mardochée, et puis hop, ça retourne complètement l'intrigue. C'est quand même assez fort, cette histoire. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que la providence de Dieu va au-delà de l'impiété du peuple de Dieu. Et que si même le peuple de Dieu oublie son Dieu, même si le peuple de Dieu déshonore le nom de Dieu par une conduite qui est trop calquée sur le monde qui l'entoure, eh bien le Dieu de grâce est néanmoins derrière la scène et la délivrance ne sera jamais une conséquence de notre piété. La délivrance ne sera jamais une conséquence de notre piété, mais un pur acte de grâce de notre Dieu. Et il me semble que ça, c'est la première conclusion du livre d'Esther. Et le livre d'Esther, quelque part, c'est un exemple extrême pour nous démontrer ça, puisque Dieu n'est présent nulle part, apparemment. Mais si, il est là, parce que on ne peut pas ne pas penser qu'il agit derrière la scène. Et donc, c'est, si vous voulez, c'est cette démonstration a fortiori que nous avons au travers de ce livre d'Esther. Deuxième conclusion, comment ce livre d'Esther s'inclut-il dans l'histoire du salut? Eh bien, il s'inclut au travers de cette lutte entre Mardoché et Aman, entre le juif et la gaguite. Parce que l'ennemi cherche toujours à néantir le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, une fois le Pharaon et ses troupes vaincues, le premier ennemi qu'il a rencontré, c'est ce peuple d'Amalek. Et la victoire a été remportée par l'intercession de Moïse, vous savez, qui mettait ses mains, puis il y avait deux amis, parce que ses mains étaient fatiguées, et tant que les mains étaient levées, eh bien, le peuple de Dieu remportait la victoire, conduit par Josué. Donc là, on est en moins 1606. À peu près 600 ans après, Dieu donne au premier roi que le peuple a voulu sur lui, Saül, l'ordre d'anéantir complètement Amalek. Et Saül frappe Amalek, sauf que, comme je l'avais dit tout à l'heure, il laisse malheureusement le roi vivant, et de ce roi va descendre ultimement Aman, et donc c'est en moins 473 que la protection providentielle de Dieu permettra cette délivrance miraculeuse des Juifs dispersés dans l'Empire perse et la mort de ce descendant. Donc vous voyez combien cela s'inclut, et il fallait que le peuple de Juifs soit préservé, même miraculeusement, même providentiellement, pour que le Messie puisse en sortir. Parce que c'était finalement, au travers d'Aman, une manœuvre sans doute du diable pour exterminer la semence qui devrait lui écraser la tête. Et la troisième conclusion, au-delà de la conclusion, je dirais, théologique, de la conclusion de l'histoire du salut, c'est la conclusion morale pour nous, et c'est peut-être la plus importante pour nous, et c'est quand l'appartenance au peuple de Dieu devient culture morte. Nous voyons tout au long de ce livre d'Esther que la fierté culturelle prédomine, et il est constamment question des Juifs, des Juifs, des Juifs, des Juifs, très fiers d'être Juifs, Mardoché et les autres. Et donc, la dénomination peut être un facteur de cohésion et d'orgueil historique, n'est-ce pas, mes amis? Et on met de côté Dieu en pratique, pas de mention. On maintient des pratiques religieuses, certes, comme par exemple le jeûne, mais il est vidé de son sens, n'étant pas accompagné de la prière, et ça devient rapidement de la superstition. On oublie la réalité spirituelle, il n'y a plus de connaissance de la parole de Dieu, plus de paroles pour réveiller par les prophètes, plus de culte, plus de prière. Et je crains qu'en 2026, ce soit un danger terrible. Je vous mets juste un livre qui a été écrit par un collectif il y a peu de temps, « Vers un christianisme culturel ». Aujourd'hui, sur la scène politique, mais pas que, on met en exergue un christianisme culturel, les racines chrétiennes de la France ou de l'Europe. C'est quoi ça aux yeux de Dieu ? Croyez que notre Seigneur se satisfait d'un christianisme culturel? Ça lui plaît, ça? Et, toujours dans cette conclusion morale, ce dont on s'aperçoit au travers de ce livre d'Esther, c'est que le peuple de Dieu peut se fondre dans son entourage. On peut être attiré par la culture du monde en adoptant les normes morales de ce monde. On voit Esther, aucun problème pour faire partie du beauty contest. On voit l'attirance des habitudes du monde avec ses fêtes chrétiennes païennisées, comme Pourim aussi ressemblait tellement à la fête que Assuérus donnait de ce temps-là. Et puis l'attirance pour les honneurs du monde, on voit à quel point Mardoché, Esther et lui cherchent des positions de pouvoir. Alors, ce livre d'Esther, en creux, certes, parce que nous n'avons pas de versets explicites qui soient dit « et surtout, mon ami, ne fais pas du tout comme Mardoché ou comme Esther ». Non, le texte nous est livré ainsi, mais si on y réfléchit quelque peu, ne devrait-il pas aussi nous secouer pour nous dire finalement, est-ce que notre christianisme n'est pas devenu trop culturel ou trop transparent ?